avec les archives sonores,
les photographies,
les articles de presse,
les vidéos,
retraçant 50 ans
bonjour
d'histoire radiophonique.
Vous retrouverez tous ceux qui vous ont fait aimer France Inter.
Participez aussi à notre grand jeu.
Si le cœur vous en dit,
écoutez la différence.
Ça n'a rien à voir.
Et inventez le slogan de France Inter de demain. Et
France Inter.
50 ans qu'on ouvre la voie.
Je vous propose d'écouter tout de suite notre indicatif.
Avec la MGEN, Mutuelle Santé, Prévoyance, Autonomie Retraite.
Rendez-vous dès maintenant sur franceinter.fr. France Inter,
la voix est libre.
L'équipe des Là-bas est en régie et lui, il est en studio. C'est Là-bas, si j'y suis, c'est Daniel Mermet.
Ouais, bonjour. Écoutez, je vous appelle au sujet de l'émission d'hier là, sur Grigny. Ah, si je peux mourir tout de suite, pas de problème, j'ai assez entendu de conneries pour tout le restant de ma vie. Je crois que j'ai 52 ans et j'en avais jamais entendu autant entendu en si peu de temps, quoi. C'est incroyable. Alors j'ai bien une petite solution, parce que moi j'habitais quand même au Lutte, à Gennevilliers, autre super cité comme ça. Et j'ai bien une solution, moi, c'est une bombe thermonucléaire et qu'on en finisse avec tous ces enfoirés là. Parce que vraiment, mais c'est mais lamentable. Qu'est-ce que vous voulez construire une société avec des gens qui pensent comme ça? Mais c'est impossible, c'est insoluble, insoluble. Il n'y a plus qu'à les éliminer. Il faut les éliminer, c'est tout. Enfin bon, de toute façon, vos émissions sont payées avec une partie de mes impôts. À part pouvoir gueuler dans le vide et pisser dans le violon, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Allez, bonne journée quand même.
Ouais, salut Daniel, bonjour à tous. Je viens d'écouter l'émission sur les Lascars, là, de banlieue. Au-delà du fait que c'était quand même assez marrant, je me pose quand même la question, est-ce que... ça alimente pas quand même cette vision et tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur les banlieues et dans quelle mesure avec ce genre de gros clichés et même si voilà je respecte la journaliste et ce travail quoi, faut peut-être pas montrer que ça, s'il y en a bien un qui fait pas dans le racolage, enfin jusqu'à maintenant je croyais, mais c'est ici, enfin là-bas. Bref, dans quelle mesure ça alimente aussi les voix du Front National, de temps en temps, ton émission. Donc voilà, il y a des bonnes questions à se poser, là, je crois, et j'espère que le deuxième volet de demain sera un peu plus proche de la réalité. Allez, sans trop d'espoir. Ciao tout le monde.
Salut Daniel, je t'appelle pour ton reportage que t'as fait hier à Grigny. C'est marrant, parce que j'ai l'impression de m'entendre parler il y a 15 ans de ça. J'ai l'impression que c'est moi, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais les nerfs. La banlieue, il y a 20 ans, c'était chaud. Et aujourd'hui, à mon avis, c'est encore beaucoup, beaucoup plus chaud. Mais je vous dis aux auditeurs qu'ils écoutent, quand ils écoutent parler ces jeunes, on a l'impression qu'ils sont méchants. Mais ils sont gentils comme tout, c'est des agneaux. C'est juste qu'ils demandent de vivre correctement, d'avoir un logement décent, d'avoir... le droit de pouvoir travailler et de gagner sa vie correctement. Mais bon, c'est pas le cas. On les méprise à chaque fois qu'ils s'énervent ou qu'il y a des bavures policières. Ils sont mal élevés, mal éduqués. Et c'est toujours de leur faute. Mais moi, ça me fait toujours penser à la phrase de Michel Naudy, paix à son âme dans Les Nouveaux Chênes Gardes. Est-ce qu'on peut voir un seul instant qu'à l'illégitimité de l'exploitation, du mépris qu'on a pour ces gens-là, peut correspondre la légitimité de la colère qui peut y avoir, qui doit y avoir dans leur révolte. Et il faisait référence à David Pujadas qui demandait à Samir Mehi pour la révolte des banlieues en 2005 un appel au calme, toujours un appel au calme. Et j'aime bien quand il conclut, quand il dit il est d'une violence symbolique légitime pour Monsieur Pujadas. Et bien sûr, il y a d'une violence collective illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait excuser l'archaïsme et autres, les intérêts de classe. Et moi, cette phrase de Michel Naudy, cette analyse sur les banlieues, eh ben pour moi, ça résume tout. Donc voilà, félicitations pour vos émissions, et ça fait plaisir d'entendre les jeunes du quartier parler sur la basse. Si j'y suis, c'est pas la première fois, mais bon, là, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai l'impression que c'était moi il y a 15 ans de ça.
Voilà, trois réactions sur l'émission d'hier, le reportage de Charlotte Perry à Grigny. Grigny, gang story, dès que vous entendez Grigny, vous pensez au pire, vous pensez aux attaques de jeunes. mineurs dans le RER, vous pensez à toutes les horreurs possibles et imaginables. Et Charlotte a commis cet exploit d'aller les voir, les gens qui habitent à Grigny, et de leur parler tout simplement, sans être entourée par la police, sans être planquée au fond d'un fourgon avec la BAC ou que sais-je, non, pas en bédette du tout. Elle est allée à pied avec son magnétophone et ses baskets, et puis elle a réussi. Ça n'a pas été facile, ça c'est vrai. Ça n'a pas été évident, mais elle a gagné la confiance des habitants de cette ville. Il y a vraiment des murs qui invisibles, hein, qui s'épaississent entre les différents composants de la société française, enfin entre les mondes sociaux, disons, hein, pour faire un peu cuistre. Et ça s'épaissit, hein, ces murs invisibles. Et on se connaît de moins en moins. Hein. Et notre but, quand même, depuis longtemps, c'est de montrer aux uns comment vivent les autres. Essayer, en tout cas, hein, avec nos moyens. Petit magnétophone et une paire de baskets, comme on l'a fait avec les éleveurs bretons récemment, comme on essaye de le faire de façon générale, et comme on va continuer de le faire aujourd'hui avec ce deuxième épisode de Grigny Gang Story. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Au sujet des 21 millions d'indemnités, enfin de retraite pour le départ de M. Varin, président de chez PSA. Alors d'abord, je voudrais dire une chose à ceux qui parlent de liberté, égalité et fraternité. C'est pas normal, si eux, ils sont ouvriers, ils partent en retraite, ils n'auront pas ça, bon, à la forêt et tout de suite. Bonhomme, il y a des ouvriers, il y a des patrons, il y a des ingénieurs, bon, on va pas prétendre que tout le monde va gagner la même chose. Hein. Ça, voilà. Hein, tu voulais gagner plus d'argent. Tu veux te faire une retraite en or, fallait faire des études, fallait bosser, enfin bon bref, tout le monde n'en a peut-être pas les moyens, les capacités. Bon, je ne vais pas discuter là-dessus. Par contre, moi, le problème Peugeot, je connais très bien, puisque je travaille pour eux. Alors d'un côté, on ferme une usine à Aulnay, de l'autre côté, on fait signer aux salariés des accords de compétitivité, gel des salaires jusqu'en 2016, diminution des primes, les heures du samedi travaillées moins payées, etc. Serrez-vous la ceinture, les gars, sinon on ferme les usines. Et puis de l'autre côté, t'as ce gars-là qui part avec 21 millions. Donc là, il y a vraiment un gros, gros problème.
La retraite chapeau de 21 millions d'euros de Varin scandalise tout le monde, aussi bien à l'UMP qu'au PS, qu'à l'UDI. Tout le monde est outré, tout le monde est écœuré, tout le monde se lance dans de grandes déclarations pendant que les gens ont des difficultés, pendant que les Français se serrent la ceinture. En plus, il ne l'a pas mérité, il a échoué dans sa mission. Enfin bref, tout le monde est vraiment scandalisé. Et quand on leur demande que s'il ne faudrait pas, une bonne fois pour toutes, légiférer pour interdire ce genre de scandale, alors là, non, là pas du tout, non. Non, là, c'est au patronat, c'est à l'entreprise, c'est au MEDEF de régler ça en interne et c'est aux entreprises de se conduire de façon vertueuse, etc., etc., etc. Je me souviens plus d'un truc. Dans Hypocrisie, le Y, c'est après le R ou après le S ?
C'était Johan de Strasbourg.
On pouvait arriver, exemple à Évry, Saint-Vitou, Grigny.
Bienvenue à Grigny.
Boum, ça part en bagarre.
Pour eux ici, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien du tout. On est vraiment... T'arrives, on va te manger.
Bienvenue à Grigny.
Il n'y a que des crocodiles, direct, on te mange et voilà. Des cannibales.
Bienvenue à Grigny.
On est des cannibales.
Des cannibales.
Bienvenue
ouais.
À Grigny.
Même pour gérer des femmes, des nanas, parce qu'on vient de Grigny, on peut pas. Parce qu'on vient de Grigny. C'est la vérité, je vous mens pas. Ici, là où on est, c'est un merdier. Mais j'assume mon merdier, je l'adore mon merdier.
Fier de mon putain de quartier.
Je l'adore mon merdier.
Mais bon, c'est le quartier. Comme ça se passe. Hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, Grigny Gang Story.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors là, je me trouve à Grigny, à la Grande Borne. Je suis place de l'église, devant le terrain de boule, juste en face du local de l'association des boulistes et des retraités de la Grande Borne.
Bonjour.
Je vais vous dire en toute sincérité, les gens ici sont échaudés par les journalistes.
Alors, donc, les journalistes, on les évite au maximum.
Ce qu'il y a, c'est que les gens, ils ont emmené les journalistes chez eux. Ils ont discuté tout ce qui s'en suit, ils ont déformé les propos qu'ils ont dit et ça leur a porté préjudice. Alors, je suis désolé, mais moi, personnellement, je ne vous dirai rien. Maintenant, les autres... Bon, je suis désolé, mais on m'appelle. Allez voir les autres sur la place, peut-être que vous aurez plus de chance.
Voilà, t'as à trois, c'est déjà bien.
Qu'est-ce qui a gagné alors là?
Ah bah c'est pour le moment, c'est nous qui marquons.
Oui, oui. Jusqu'à temps qu'on arrive à 13.
Ah oui. C'est la tienne que j'en aime.
C'est bravo. Là il s'est trompé de boule, comme dirait l'autre.
C'est comment votre prénom?
Ah, pour tout le monde, petit Claude.
Vous faisiez quoi?
Menuisier. Travaillez la mairie.
Et à 13.
Depuis quand vous habitez à la Grande Borne?
Oh, depuis 73.
40 ans?
Eh oui. Bon, ben, beaucoup de changements dans la ville.
Qu'est-ce qui a changé, par exemple?
Ah, les habitants.
Comment c'était avant, les habitants?
Un peu mieux réparti.
C'était plus mélangé?
Voilà.
Ça fait un moment que je fais les casses.
Voilà, tout a changé. Voilà.
Ah, vous pointez le jeune homme avec sa moto, ça fait du bruit.
Mais s'il n'y a pas que ça. Et la drogue et tout.
Il y a de la drogue?
Eh oui. Ils les connaissent et personne ne dit rien.
Mais non, c'est moi qui envoie ça. Alors ça nous fait vieux. Il faudrait l'interroger, celui-là.
C'est dangereux de faire de la moto comme ça sur une roue à l'arrière?
Évidemment que c'est dangereux, mais... Là-bas, petit trafic.
Les petits jeunes, là, à côté de la voiture, vous croyez qu'ils font ça?
Oui, mais dans le hall, là-bas. Bah, bien sûr.
Mais comment vous savez qu'ils trafiquent? Peut-être qu'ils sont juste ensemble.
Non. Ah, quand les gendarmes sont là ou les flics, il n'y a personne, on les voit pas. Hein.
Ils sont souvent là, les gendarmes ou les flics?
De temps en temps, oui. CRS, surtout.
Tape ou deux, là, si tu peux. Ouais. Ah non, t'es pas droit. Voilà. Non. Dommage. Allez, un gros pour nous. Et en 71, j'y arrivais, c'était magnifique. C'était super. Mais maintenant, il y a trop de délinquants maintenant. Il y a trop de voyous. C'est comme Saint-Audit maintenant. Si tu te tiens pas bien, on te rentre chez toi. On te peut même. Si tu bouges pas, on te vole. Alors.
Ça vous est arrivé, vous, de vous faire voler?
Ah non. Non. Ici. Tout le monde me connaît. J'étais cuisinier au collège. Alors, tous les gamins, ils me connaissent. Ma voiture, tout ça. Les gosses, ils disent, ah, c'est la voiture à Vincent. Il ne faut pas le toucher. C'est ça. Alors, quand c'est comme ça, ben, ça marche bien.
Voilà, c'est celle-là qu'il fallait enlever. Jean, ils ont des boules encore ou pas? Ah si, merde.
Il y a où le bouton?
Voilà un moment de la vie, un instant de la vie à Grigny, à la Grande Borne. des boulistes un peu méfiants, mais c'est vrai qu'ils en ont vu et revu des reportages sur eux. J'ai vécu dans la cité qui fait peur, par exemple, des titres comme ça. Évidemment que ça peut refroidir quand les journalistes arrivent, mais pas toujours. On va le voir encore aujourd'hui sur ces bandes. Sur ces bandes de Grigny, il y en a un peu partout en France, mais c'est pas une histoire entièrement nouvelle. Écoutez ça, malfaiteur qui vit hors la loi et révolte ouverte contre la société, ne reculant ni devant le vol, ni devant l'assassinat. C'était une définition des Apaches. Les Apaches vers 1900, ils étaient des centaines et des centaines dans Paris et autour de Paris, on les appelait les mauvais garçons. Et pourquoi on les appelait les mauvais garçons ? Parce que les mauvais garçons, ça renvoyait au XVIe siècle. Oui, 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 au XVIe siècle, à Paris, sous le règne de François Ier, les mauvais garçons étaient des bandes de bohémiens, de voleurs, de déserteurs, d'écoliers débauchés, qui parcouraient quelques provinces et surtout les environs de Paris en commettant d'effroyables désordres. Donc on voit qu'on est dans une histoire ancienne, dans des histoires anciennes, et pas seulement hexagonales, bien évidemment. Souvenez-vous des Jets et des Sharks qui ont fait qui composent complètement ce chef-d'œuvre qui est West Side Story et qui se battent pour des histoires de territoire. Et les gars de Grigny, où nous sommes, se battent aussi pour des histoires de territoire. Il y a donc quelque chose qui revient tout le temps, qui est un phénomène, allez, on va dire, sociologique, anthropologique, si vous voulez. Et puis, il y a aussi d'autres choses là-dedans. Il y a des raisons à ces comportements, la conduite de ces bandes et la constitution de ces bandes, des raisons qui sont très connues, des causes qui sont très connues, qui sont le chômage, avant tout d'ailleurs le chômage, la question de l'éducation, de la formation, la question aussi de cet habitat qui a été conçu dans des années 70, mais qui ne correspondait pas du tout aux réalités sociales, sociologiques, aux mouvements politiques et aux mouvements de l'histoire. Voilà où nous allons aujourd'hui, à nouveau, avec une phrase en tête. Celle de Pierre Bourdieu, à la fin de « La sociologie est un sport de combat », Bourdieu dit « Je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre. Tant qu'on brûlera les voitures, on verra des flics, mais il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. C'est un message aux mauvais garçons. C'est là-bas si j'y suis jusqu'à 16h ou presque. Grigny Gang Story.
Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés. Des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut avoir, pour être à leur goût, un beau faux col et un chapeau mou. Ça fait pas chic une casquette, ça donne le genre malhonnête. Et c'est pourquoi quand un bourgeois nous voit, il dit en nous montrant du doigt: c'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon.
Vous vous appelez comment ?
Je vais pas totalement vous dire mon blaze, mais bon. On va m'appeler K. Mister K.
Là, on est à côté de la place de l'église, c'est ça ?
Oui, là, vous êtes exactement au miroir.
Au miroir ?
Ouais, au miroir.
Bien propre.
C'est pas forcément parce qu'il y a 10 mecs là-bas, qu'il y a 10 mecs ici, il y a 10 mecs là, il y a 10 mecs là, que forcément, il doit y avoir quelque chose de bizarre ou une vente illicite. Non, c'est
parce
grand chez nous.
On marchait à 10.
Et dans chaque coin, des rues de la Grande Bande, c'est sûr que vous verrez une dizaine ou 5 ou 3 ou 30 personnes. Donc forcément, il faut arrêter de se poser des questions. Comme les keufs qui nous cassent les couilles à tourner un peu de partout. Les voyous ici, c'est les policiers pour nous. ils tournent, ils voient 10 personnes, hein, ici il y a quelque chose, ici il y a quelque chose. Il n'y a rien, il n'y a rien pour eux, il n'y a rien pour tout le monde. Ici on est chez nous, on s'impose, on fume, on fait ce qu'on veut, on est là, on est chez nous.
Quand je suis arrivé tout à l'heure, vous disiez il y a une voiture de la BAC là qui tourne.
Il n'y avait pas qu'une voiture, juste on parle avec vous là, ils sont même pas à 10 mètres de nous. Peut-être ils nous regardent avec les jumelles. On sait pas.
La police, juste pour vous faire chier, là, on est là tranquillement. Ils peuvent venir vous voir, vous dire, madame, vous pouvez partir s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de rester ici. Pourtant, vous ne nous dérangez pas, on est là tranquillement. Et quand on veut pas que les journalistes ils viennent ici, ces fils de pute, ils nous les envoient. Excusez-moi d'être vulgaire. Excusez-moi,
désolé. Vous envoyez beaucoup des journalistes ici ?
Mais non, mais c'est des journalistes. On ne sait même pas, ils travaillent pour quelle société, quelle entreprise. C'est des journalistes qui travaillent. Je vais même pas dire avec le gouvernement, c'est avec la police.
Là, quand les affaires elles sont médiatisées, c'est la police qui appelle pour dire qu'ils ont fait un bon métier, qu'ils ont fait un bon boulot. C'est juste pour eux, c'est eux qui appellent les journalistes, tout ça.
Non! Tu vois, ils viennent de me dire, faites attention. Parce que tout à l'heure, ils étaient là-bas. Tu vois?
C'est la vieille dame qui vous prévient qu'il y a la police dans le coin.
Y a pas d'âge pour nous prévenir qu'il y a la police ou il y a que tel, ou si on vous voit, on vous trouve suspect, qu'on va venir vous questionner. Ou...
Moi, je me baladais la dernière fois. Et il y a quelqu'un qui est venu me demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui?
C'est normal.
Il y a des gens qui se méfient. Il y a des gens qui se méfient des gens. On a de quoi se méfier aussi.
Quand la police arrive, tout le monde est prévenu. Ça veut dire même que toi, tu fais rien, t'as rien sur toi, t'es pas à l'abri. Des fois, t'as rien fait, ils viennent parce qu'ils veulent que toi, tu poucaves l'autre. Ça veut dire tu balances l'autre, tu donnes des informations. Toi, tu fais quoi, tu vois? Après, ça fait des histoires. Ils sont là, ils rigolent. Ils passent en voiture, ils rigolent. Ils nous font des doigts, ils nous insultent. On est obligé de le rentrer dedans.
France Info. 25 mars 2013.
5 jours à la une, un nouveau feuilleton toute cette semaine. Nous sommes à la Grande Borne, à Grigny, dans l'Essonne. Reportage en patrouille avec Stéphane Père.
Milieu d'après-midi, sans histoire pour Jamal, Sébastien et Claude, la radio de la patrouille de la BAC est quasi muette. RAS, la Grande Borne, semble vider de ses habitants.
210, donc prenez note 23. Whisky Victor 28.
Cet après-midi-là, à la Grande Borne, ils sont trois équipages comme celui-ci à sillonner la cité. Les policiers de la BAC sortent peu de leur véhicule. Ils passent aux mêmes endroits, deux, trois, quatre fois, à la recherche du flagrant délit, d'une transaction, ou le plus souvent pour gêner le trafic.
On essaye de faire un peu...
Le problème, c'est que dès qu'on rentre sur le quartier, on est levé automatiquement.
Ça fait exactement...
On n'arrive plus rien à voir, quoi.
Ouais, parce qu'il a quand même doublé son champ d'action. Il a mis le premier, il a remis le deuxième, le petit... Donc ça veut dire qu'il a doublé ses postes.
On traîne constamment, il fait le tour vélo. Vélo, ouais. Il est avec constamment, c'est pareil. Ouais. Enfin,
Et tu le vois sortir du quartier en vélo?
Qui ça?
Non.
Le trafic de drogue, le problème numéro un de la Grande Borne. 70 revendeurs, trafiquants et le plus souvent simples usagers interpellés, dont une dizaine ces dernières semaines à la Grande Borne, pour moins de 15 kilos de résine de cannabis saisie. Un chiffre qui paraît dérisoire au regard du trafic présumé dans cette cité de l'Essonne. Stéphane Père, France Info.
Alors le reportage embedded au fond de la voiture de police avec la BAC, c'est un genre journalistique que vous connaissez. Il n'y a pas une semaine sans que la télé, à grand coup de panique, présente de ces reportages. C'est un genre en soi qui parfois évidemment donne une partie de la réalité, mais une partie seulement de la réalité. Charlotte Perry, elle a rencontré Kizo, qui est simplement un réalisateur et originaire de la cité, de Grigny, et qui a retrouvé les jeunes fans de hip-hop que un photographe de renom, Yann Morvan, avait suivi en 1992. Et c'est avec Kizo qu'elle a pu rencontrer tous ces jeunes. Il n'y a pas non plus de mystère extraordinaire. C'est tout à fait possible, en s'y prenant bien, de rencontrer ces jeunes, ces bandes, et de les écouter.
En fait, là, on est à la Grande Borne, là, on est aux places du Damier. Pour aller jusqu'à l'autre bout, à pied, on peut mettre au moins 20 minutes. Et d'un endroit à un autre, on peut mettre des fois 15 minutes, mais sans rencontrer de voiture, puisque le quartier, il est fermé à la base. Et c'est ce qui fait que tout le monde se connaît, même la personne qui habite tout au bout, même si on ne la connaît pas personnellement, mais on sait qu'elle habite du quartier, puis on connaît sa tête, parce que tout le monde se croise, même s'il y a... Il y a 17 000 ou 15 000 ou je ne sais plus combien d'habitants. Tout le monde connaît tout le monde. Peut-être pas personnellement, mais au moins de vue.
Et là, sur la gauche, là derrière, c'est la place du Damier.
Alors ici, ouais, c'est la place du Damier. C'est, voilà, celui qui veut s'amuser à dégrader le quartier avec des images, et il peut venir et filmer ça. Ouais, c'est vraiment... voilà quoi, laisse tomber. Mais par contre, le bâtiment du milieu va être détruit.
Ce bâtiment-là où il y a la pharmacie ?
Celui-là et puis l'autre qui est juste à côté où il y avait un ancien commissariat en fait.
Et le commissariat l'a fermé ?
Ouais, l'a fermé. On pouvait pas rester dans le quartier quoi, parce qu'il y a eu plusieurs assauts. À chaque fois qu'il y avait un problème ou qu'il y avait des émeutes, le commissariat c'est le premier à brûler. Donc en fait, c'était quand il y avait les polices et la police de proximité. Ils étaient là, c'était un petit local des îlotiers. Puis bon, après, ils ont eu le commissariat à côté de la gare. Donc voilà, en fait, il a été laissé à l'abandon, on va dire. Bonjour, ça va bien ? Ça va, merci.
Ah, vous, vous appelez comment ?
Moi, c'est Karim. Je suis originaire de la Grande Bande, j'y ai grandi. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens qui ne sont jamais venus à... Alors la Grande Bande, ils pensent que c'est des tours, mais en fait, non, c'est un quartier qui est très très large. Mais le bâtiment les plus hauts, en fait, ils doivent faire 5 étages, c'est tout. Quand les enfants sont pas à l'école, bah, on a l'impression d'être dans un grand parc, en fait, mais avec des bâtiments dessus. Parce que, voilà, quoi, il y a beaucoup d'herbe. On voit, quoi, il n'y a que ça. Il n'y a pas de voiture qui passe. Voilà, quoi, c'est le charme du quartier.
Allez, ça va, tranquille.
Ouais.
Vous travaillez où ?
Ici. Je suis référent événementiel et donc ça fait que la plupart du temps je me retrouve au studio puisque c'est là-bas où on a des ateliers écriture. On travaille avec des jeunes là-bas pour des albums, des musiques.
Donc vous travaillez au service jeunesse de la ville ?
Ouais, voilà. Ça va faire 15 ans.
15 ans ?
Ouais, 15 ans, ouais. 15 ans.
Ah, entendu son là qui sort de je sais pas où. De la place là-bas.
Ouais, c'est des mecs qui sont en train de rapper, C'est en train de faire les oeufs.
La grande bombe, cousin. Oui, c'est la guerre, cousin. Oui, eh ben, je suis sur direct de Grigny, la grande bombe, le quartier du Méridien.
Ah,
c'est
un
coup. Ah, c'est un Tillon. Ouais, c'est un Tillon. C'est un direct là, derrière, sur TF1. Là. C'est un direct sur TF1. Là.
C'est le bordel dans la cité de la grande bombe. Les policiers ont du mal. Et les jeunes contre la situation, apparemment. On ne comprend plus rien, les policiers ont du mal.
Oui, un jeune a tiré un mortier sur commissaire Moulin.
Smo.
Smo ?
Ouais, Smo. 20 ans, ici de Grigny.
Nous, on est dans la BTG, Black Tro Gangsta. Ah,
ça, c'est la relève, là. Ça, cette relève-là, là. J'y crois en lui.
Il est tout jeune.
Ah, il est tout jeune.
Comment tu t'appelles ?
Souil.
Quelle classe ?
CM2, 11-1, Radio France, oui, je sais.
Lui, ça, c'est la relève de Lucie.
Le restaurant du cœur, inscrivez-vous. Secours populaire, tout ça. Faut aller là-bas, ils vous aident.
Tu vois, il est petit, il est passé devant nous, il est parti, il aide la mamie.
Il lui porte son sac de course, ouais.
Son caddie.
Son caddie.
Imaginez-vous, les gens qui ne connaissent pas, ils vont dire quoi ? On est des voyous. Pour eux, ici... Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien du tout. On est vraiment... T'arrives, on va te manger. Il n'y a que des crocodiles, direct, on te mange et voilà. Des cannibales, quoi.
Grigny, on est des cannibales.
Des cannibales.
Ouais. Même pour gérer des femmes, des nanas, parce qu'on vient de Grigny, on peut pas. Parce qu'on vient de Grigny.
Ouais.
c'est vrai.
C'est la vérité, je vous mens pas. Parce que tu viens de Grigny, c'est mort. Et les mecs de Grigny, ils ont une trop mauvaise réputation.
Ça devient un poison, en fait.
Comme certains.
On a un mauvais poison. Au fond de nous, on sait qu'on n'est pas comme ça. Mais à un moment, si ça déborde, on est, je sais pas.
On prend les ailes.
On prend les ailes, c'est dead.
C'est dead.
Ici, là où on est, c'est un merdier.
C'est la jeune.
Mais j'assume mon merdier. Voilà, je l'adore, mon merdier.
Je suis fier de mon putain de quartier.
Je l'adore, mon merdier.
C'est vrai que du coup, ça fait peur aux filles, les mecs qui viennent
non,
de Grigny.
Non, c'est pas que ça fait peur, c'est que...
Il y a des filles, elles aiment bien. Ah, ça, de ce côté-là. De l'autre côté, des filles qui aiment bien les mecs de Grigny. Oh là là, elles sont en sang. Mais celles qu'ils aiment pas...
Vous avez jamais eu l'habitude de venir à Grigny. La première fois qu'on vous a proposé de venir à Grigny, ça vous a fait quoi ?
Sans mentir.
Pour certains, d'entendre Grigny, c'est...
C'est comme s'ils entendaient les États-Unis en France.
Comme si, là, tout de suite, on leur proposait d'aller en enfer. Là, tout de suite, voilà. Grigny, Tu vas pas au paradis, tu vas en enfer.
On en parle vraiment quand il y a des problèmes. On en parlait au mois de mars quand il y avait eu des dépouillages dans le RER. On en parle à chaque fois qu'il y a un problème. Donc forcément, à un moment, ça fait peur aux gens.
Vous savez, les dépouillages là, que vous avez vus, soi-disant, au mois de mars. Depuis des années, ça existe. Depuis des années, ça refait ça. Tout ça, ça se fait des dépouillages dans le train. Tout le wagon se dépouille. Il y a même des vidéos sur Internet. On voit à Grigny, non, ça a dépouillé. Ceux qui se traînent à la gare là-bas, ils font que ça. Ils font que ça. Les policiers, ils le savent très, ils le savent aussi. Même tout le monde le sait, t'arrives à la gare de Grigny, tu risques de te faire dépouiller. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui.
Ça, c'est des trucs que la BTG, vous faisiez, par exemple, les dépouillages, ou c'était pas du tout.
Non.
Après, il y a des gens qui sont spécialisés dans des trucs. Il y en a, ils font des dépouillages. Il y en a, ils vont faire ça. Il y en a, ils vont gilet. Il y en a, ils... Chacun son business. Mais ce truc-là qui s'est passé là, dans le train, la dernière fois, je suis un peu contre. Il y aurait pu avoir ma mère. Mais c'est pas d'aujourd'hui que ça existe.
Mais il y a eu des histoires il n'y a pas longtemps de femmes qui se faisaient attaquer de carjacking là. Ouais, à la traille.
Ça aussi, hein, franchement, je vais pas vous mentir. De 2013 à 2091 à je ne sais quoi, franchement, non mais sérieusement, il y en aura toujours des carjacking, hein, comme partout. Chacun a son talent. Maintenant, cette personne-là, si elle a fait le con, mais à la fin, si elle c'est une grande personne, elle est dans le jeu, il faudra qu'elle assume. C'est tout simple, comme dans tous les quartiers.
Ils se nomment les Black Automatiques.
Télé et Sonne.
Un groupe de jeunes rappeurs comme on en trouve tant sur le web.
21 janvier 2013.
Dans leur texte, ils présentent leur quotidien apparemment rempli de violence.
Greenywood, la grande bande est dans le hood, mec. Quand ça se complique, t'inquiète, on fait parler les douilles, mec. Wow. Pour faire du cash, les mecs du bloc, braque, braque.
Des paroles aux actes, il n'y a qu'un pas. Depuis l'automne, plusieurs jeunes, dont des membres du groupe, seraient à l'origine de vols et d'agressions physiques aux abords de la N445, la nationale qui longe le quartier sensible de la Grande Borne à Grigny. La méthode employée, le carjacking ou vol à la portière en français. Une voiture s'arrête, trois individus brisent la vitre et arrachent le téléphone portable ou le sac à main de la victime.
Braquage, dépouillage et meurtre, règlement de compte.
Braquage réel, frime évidente, mais on n'est pas inerte forcément à Grigny et à la Grande Borne. On l'a entendu, on s'occupe de la jeunesse, on fait du rap, il y a beaucoup d'associations à Grigny. Et les femmes aussi, on n'a pas vu beaucoup encore de femmes dans cette histoire, à part Charlotte Péry elle-même. Mais non, ça bouge, les mamans se prennent en charge et s'occupent de réussite scolaire.
Bonjour.
Bonjour.
Enchantée.
Enchantée. Charlotte. Chantal, qui fait partie aussi du groupe de parents.
Bonjour.
Enchantée.
Alors, Orkia Benaïssa, maman de trois enfants, habitante de Grigny. J'habite ici depuis à peu près, on va dire, pratiquement 30 ans.
30 ans.
La Grande Borne, oui. Le quartier, au jour d'aujourd'hui... J'irais même à des blessures qu'on n'arriverait pas du tout à guérir si on n'est pas vraiment écouté, quoi. Bah oui, des blessures, surtout les jeunes. Les jeunes, ils sont pas du tout entendus. Ils sont délaissés, ils sont déscolarisés. Nous, on est un groupe de parents qui avons créé une université populaire de parents, justement parce qu'on se posait la question pourquoi les enfants des quartiers populaires ont du mal à réussir.
Et alors que les dispositifs sont mis en place par l'éducation nationale, les élèves, ils sont moins de 20 par classe, ils ont des subventions et le résultat, il n'est pas là. Les professeurs ne sont pas du tout conscients de la des difficultés des parents, quoi. Pour eux, ils ont une image, ils pensent que les parents vivent à leur image.
À Grigny, il y a 55 ethnies différentes. 55 ethnies différentes, c'est pas rien. Donc, au moins une connaissance déjà de l'endroit où ils vont être, une connaissance des codes sociaux. Un enfant qui baisse les yeux devant un enseignant, c'est par respect. L'enseignant va lui dire « Regarde-moi lorsque je te parle ». Mais l'enfant, lui, a été éduqué comme ça, c'est sa culture, c'est par respect. Et à cause de cela, c'est des petites choses qui vont s'emboîter et c'est ça qui va amener que des problèmes. Et donc l'enfant, après, va être réprimandé, va avoir un mot dans le carnet. Il faut savoir aussi qu'à Grigny, il y a beaucoup de familles dont les deux parents travaillent. Deux parents travaillent, ça veut dire que les enfants sont à la maison, quelquefois dehors, tout seuls. Et ça n'est pas parce que les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour eux, l'essentiel, c'est de faire manger leurs enfants. Donc ça, on l'oublie un petit peu. Il y a certains parents qui sont peut-être dépassés, mais ces parents-là, ils n'ont pas trouvé d'accompagnement, ils n'ont pas trouvé d'écoute. Ils ne savent pas du tout où se diriger, ils ne savent pas... Aujourd'hui, c'est tellement une répression, c'est toujours dans le négatif. C'est t'es enfant de la grande borne, et ben t'es un délinquant. T'es enfant de la grande borne, ben t'iras pas plus loin que travailler à l'usine ou aller pointer au chômage. Un enfant de quartier populaire doit avoir la possibilité de sortir pour aller voir autre chose. Moi, je dis toujours que Grigny, c'est un ghetto. Nos enfants sont enfermés dans une bulle. On leur apporte tout ici pour pas qu'ils sortent. Donc ça, c'est pas normal.
Je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Tant qu'on brûlera les voitures, on enverra les flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler les voitures, mais avec un objectif.
Parce qu'ils veulent faire de moi un soldat au compte chèque solvable. Je vous le dis, je suis condamné à l'échec. Parce que les études de lettres et de philo, ça paye pas. Ils m'ont dit, petit mec, t'es condamné à l'ESSEC. Condamné, faut accepter les lois du marché. C'est marche ou crève quand les diplômes deviennent les flèches de l'archer. Si réussir, c'est un salaire à un pavillon sous hypothèque. Permettez-moi d'être condamné à l'échec. Ils disent que les jeunes du ghetto veulent leur part du gâteau. Incite à se lever tôt. Mais c'est quoi ce veto? Cette injonction à être cool. Rentrer dans le moule. Enlever sa cagoule. Enfiler ses pantoufles. S'asseoir dans son canapé. Allumer sa télé. Puis mater, lobotomiser. Leur clip, ça s'est misé sur notre consentement et notre consensus. Quand la révolte appelle à faire de l'oseille, c'est un terminus. On pourra pas nous exhorter d'aduler le MEDEF au canal Saint-Martin. Il y a des anciens cadres SDF, voilà l'envers du décor. Ce système est à refaire, l'humain n'est rien, les trophées ne reviennent qu'au profit. Alors bien sûr, faut se prendre en main, évidemment. Ne rien attendre de ce système qui te considère comme un chien, qui te fera porter le bâton sous forme d'un maximum de lucre. S'il est bien docile, le toutou, il aura son sucre. Mais je ne suis ni une carte de visite, ni un CV. Pas de métier valorisant, je suis qu'intérim et CDD. Avant, j'aimais leurs balades. Maintenant, elles me narguent, elles me font constater que je n'ai pas de corde à l'arc, car je ne sais pas chanter, pas rapper, pas slammer, pas scénariser, pas designer. Moi, je passe pas à la télé. Laissez-moi être fatigué, être inadapté. Laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre.
C'est la salle de boxe?
Alors ici, c'est un gymnase plutôt. Ils font ici du jiu-jitsu, il y a une salle de musculation. Et nous, on a une salle de boxe qui est à l'intérieur.
C'est ouvert quand même la salle?
Alors, c'est ici la salle de boxe. Il y a des sacs, trois sacs suspendus.
Ça, c'est pour les minutes.
Ça. Une minute, deux minutes, trois minutes, c'est-à-dire un round, et la minute de repos.
À la fin de la troisième minute,
ça sonne, il y a une minute de repos.
Bah à la base, moi, mon père, il était boxeur professionnel, ouais, dans les années 50. Il a été champion de France en 51, 52. Il a été champion d'Afrique. Il a été dans le livre des palmarès, mais tout. Hein.
Il s'appelait comment?
Fraj Trabelsi. Farhat. Il a jamais voulu qu'on fasse de la boxe. Ouais. Il a dit nous on l'a fait, c'était pas un sport, on l'a fait pour gagner de l'argent. Donc ils avaient pas le choix en fait à l'époque. Ils ont dit nous on n'a jamais su lire, c'est écrire. Enfin ils ont appris à lire sur le tas quoi, à écrire, mais ils ont jamais été à l'école en fait. Donc il a dit vous allez à l'école, vous savez lire, vous savez écrire. Si vous devez aller chercher de l'argent, vous allez le chercher en travaillant, avec ce que vous avez appris, ce que vous savez. Il fallait chercher le travail quoi avec votre savoir. C'était ça le truc. Ouais.
Vous boxez en quelle catégorie?
Là je boxe plus, mais là je serais peut-être en mi-lourd, lourd léger peut-être.
En fait vous boxez dans le vide, vous enchaînez les combinaisons?
C'est du shadow. En fait quand je vois un coup,
dans la logique de choses, si l'adversaire est là, sa garde, mon bon boxeur, il recule juste derrière. Donc moi, j'envoie un coup, juste derrière, je m'entraîne à mettre un coup et à le blesser, au cas où ça devienne un automatisme. Les gants, le sac.
Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez commencé la boxe, parce que vous bagarriez beaucoup.
Ouais, j'étais jeune, j'avais beaucoup de bagarres. J'étais très impulsif, en fait. Donc je démarrais pour quart de tour, pour rien. Puis, donc quand mon ami faisait de la boxe, il m'a ramené avec lui. On était dans le même groupe de rap, en fait, c'était Daddy Lorty. On boxait ensemble et tout, il a été champion de Paris. Donc on s'entraînait ensemble avec ses frères et tout. Après, on apprend à canaliser ses nerfs. Et puis on se rend compte, en fait, que des fois qu'on se voit, ça sert à rien. Et puis, on peut faire plus de ravages qu'autre chose. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé. J'ai failli tuer une personne avec un uppercut. Ouais, et le mec, il a fait un jour de coma avec des séquelles et tout. Donc, ça, c'est assez dangereux comme pratique. Si on utilise la boxe pour faire du mal aux gens, on peut faire vraiment des ravages. C'est un sport, c'est un noble art. C'est comme un art martial. Il y a des techniques, il y a des combinaisons, il y a des manières de faire les choses. C'est pas parce que t'es balèze que tu vas mettre une droite, ça va faire mal. Il y a une manière de le faire. Il y a le poids du corps qui joue, il y a la position du poing. Par contre, à l'époque où il y avait les bandes, il y en a beaucoup, ils s'entraînaient. C'était pour aller se battre.
Vous avez fait partie d'une bande ?
Non. Nous, on était déjà entre potes, on marchait entre potes. On va dire, on était un peu les premiers mecs de cité à marcher ensemble. Alors, les mecs qui disaient, ou disaient, ouais, telle bande là-bas, nous, quand on arrivait, ils disaient, ouais, il y a les mecs de Grigny. Ça, c'était dans les années entre 90 et 95, je veux dire. Avant, dans une bande, il y avait plusieurs personnes de plusieurs quartiers différents. Dans les fights, t'avais aussi bien des mecs de Grigny, d'Evry, Corbeil. Félin, c'était principalement basé sur Grigny. Après, je dirais, il y avait plus des allures de gang, mais c'était des bandes. Parce que les États-Unis, c'est vraiment organisé, quoi. Les gangs, c'est des gangsters. Et un gangster fait partie d'un gang. Un bandit, il fait partie d'une bande. Comme un brigadier d'une brigade, voilà. Après, une bande, c'est plus les gens, ils sont ensemble. Ils sont en groupe, ils sont ensemble. Donc après, le mec, demain, il part de la bande, voilà, il n'y a pas réellement de soucis. Par contre, dans un gang, il est pas aux États-Unis, le gars, il quitte le gang, lui font la peau. Ça y est, t'as signé un pacte, c'est cuit, c'est fini. Il y a une époque, si les gangs, ils auraient évolué, ils auraient pu dériver dans ce contexte. Mais en fait, ça a été étouffé, en fait, ça a été noyé. Ça a été plié. Donc après, la délinquance, ça s'est éparpillé. Voilà, maintenant, c'est la violence par là, les braquages, c'est de tout, en fait. C'est un foutoir, on va dire.
Pompe ?
Ouais. Toujours à la fin d'entraînement, un peu de pompe, un peu de renforcement musculaire pour servir le muscle.
Et après, par la suite, les affrontements entre cités, toi, t'as participé à ça ?
Bah, entre cités, ouais, on va dire, j'étais plein dedans. Et généralement, il y a beaucoup de problèmes qui se réglaient comme ça, en tête à tête, parce qu'ils savaient que derrière, on venait, on était nombreux, mais voilà, que ça pouvait mal finir. Maintenant, moi, je faisais partie quand même d'un groupe de gars. On n'était pas trop dans les embrouilles, tel quartier. Nous, on était plus dans les sécurités, faire des sécurités dans les soirées, dans des événements. On nous appelait pour faire les sécurités quand il y avait des festivals, justement, quand il y avait toutes les cités qui se rencontraient, on nous appelait, nous. On connaissait déjà une bonne majorité des jeunes. Et les gens, ils nous reconnaissaient. Et donc, on pouvait gérer un peu les tensions qu'il y avait entre quartiers. Toi, des fois, il y a même des histoires. On nous appelait pour régler les problèmes, pour pas que ça déborde. Les mecs, on leur disait pourquoi vous battez, ils savaient pas. Là, les mecs, ils savaient plus pourquoi. C'est-à-dire, même si à la base, ça partait d'une histoire où il y avait vraiment quelque chose, même si cette histoire d'enfant avait été réglée, bah, il y en a, ils restent avec des rancunes. Et c'est l'héritage qu'ils ont eu, les générations d'après, c'est d'aller se battre avec le quartier d'en face, mais tout en sachant pas pourquoi. Bah ouais, ils sont battus, bah nous aussi on va se battre. Et ainsi de suite, bah jusqu'à aujourd'hui.
Alors là, je me trouve toujours à la Grande Borne. Je suis place du Damier. Il est 7h du soir. Il y a la boulangerie qui est encore ouverte. Le marchand de fruits et légumes. Le boucher. Et derrière, une pizzeria sandwicherie, le Dams. La fleuristerie a fermé depuis bien longtemps. Et le taxiphone aussi. Et sur le rideau, il y a un gros tag. La Grande Borne, ici, c'est danger. Vers là. Comment vous vous appelez ?
Rams. Je travaille, chauffeur livreur. Ça fait quelques mois. Ma daronne, elle travaille, elle est soignante. Mon daron et mon père, il est mécanicien. Mais il habite aux Antilles, en fait. Je suis déjà allé en Martinique, j'ai même fait 9 mois là-bas.
Qu'est-ce que vous étiez allé faire pendant 9 mois ?
Reposer ma tête un peu. Des mauvais trucs d'ici, en fait.
Vous aviez quel âge, à ce moment-là ?
19 ans. Là, j'en ai 21. Avant que je parte, c'était compliqué, hein. Parce que on se battait contre des autres quartiers, c'était que des trucs comme ça. On pouvait passer quelque part, on se fait frapper, après on revient avec notre équipe. On revient, on frappe, attaque contre attaque. La base des bases, c'est les gens qui ont commencé à nous appeler comme la BTG. Black Trog Gangsta ou Best in the Game. Mais à la base des bases, nous, on est une bande de potes, en fait, c'est tout. On est une quinzaine.
Ouais. Bonsoir.
En fait, ça se provoquait sur Internet. Des fois, même des regards. Après, surtout les meufs aussi. C'est ce qui a engrainé les bagarres, en fait. Elles vont dire l'autre il a dit ci, l'autre il a dit ça, nous on va croire, on va s'enflammer. Il y en a, ils ont déjà été blessés, des trucs comme ça, mais c'est le métier. Hein. C'est le métier. Les gens ils se font planter, des trucs comme ça. Moi personnellement, moi ça m'est jamais arrivé. Mais après, on sait jamais. Par exemple, je peux aller dans un autre quartier, je sais pas. Et comme il y a des nouveaux quartiers maintenant, des quartiers qu'ils n'avaient pas la côte, des villes de Bourges maintenant, les fils à papa, les trucs comme ça, ils veulent devenir des voyous. Moi, je dis pas que je suis un voyou, mais eux, ils veulent devenir des voyous, ils veulent faire la bagarre. J'écoute, je les laisse. Jusqu'au jour qu'ils vont venir m'embêter, on va régler ça comme on doit régler ça. Mais s'ils veulent pas m'embêter, ben, je fais ma vie. Hein. C'est calme, parce que personne ne nous pose de bricoles, en fait. C'est pour ça, c'est calme. Mais si on vient nous embêter, vous inquiétez pas que l'esprit va revenir. Moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans. En dernière année du CAP. J'ai même pas passé le CAP, en fait. L'école, ça me débordait. J'ai préféré chercher du travail.
Vous faisiez un CAP de quoi ?
En mécanique, j'étais au CFA, en fait. Quand je repense, si ce serait maintenant, j'aurais passé mon diplôme. Mais avant, j'avais la tête ailleurs. En fait, avec toutes ces embrouilles, ça devenait compliqué. Des fois, on se battait. Après, le lendemain, je me disais, si je vais à l'école, il va se passer un truc. Des fois, j'allais, il se passait un truc. À un bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai tout lâché. Ça, c'est quand j'allais au CFA à Évry. Et on s'embrouillait avec les mecs d'Évry. Donc, j'ai tout lâché. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, c'est bête. Mais bon, il fallait le faire pour qu'on nous laisse un peu tranquille. Je me dis, c'est bête ce que j'ai fait, mais je regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que c'était le destin. C'était écrit, c'était comme ça.
Grigny Gang Story, le second volet du reportage de Charlotte Perry. Merci à Kizo, à Petit Claude, à Vincent, à Karim, à Orkia, Chantal de l'Université Populaire des Parents et à toute l'équipe de la BTG. Ali à Gang Story, les textes de Kizo et les photographies de Yann Morvan, édité par la Manufacture des Livres. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Sur là-bas, si j'y suis, la-bas.org, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur la page Facebook de l'émission, partout où vous pouvez faire des commentaires que nous attendons avec intérêt, vous le savez. À la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Benjamin Delagatinet. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhéraire, préparé avec Jonathan Duron et Stéphanie Fromentin dans vos messages. Sur le répondeur de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve pas demain, on se retrouve lundi à 15h pour la basse, j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon pour son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Alors, je suis Chantal, je suis médecin scolaire et je viens de Corse.
Moi, je suis Caroline, je suis enseignante en grande section et je viens de Normandie.
Moi, je suis Isabelle et je suis chef de service dans un centre d'action médico-sociale précoce.
Moi, je suis Flore et je suis mère au foyer.
Bruno, consultant près de Clermont-Ferrand.
Laure, je viens juste de commencer un nouveau travail et je suis affréteuse.
Affréteuse, c'est quoi ça?
Je travaille dans une entreprise de transport routier qui reçoit tous les matins des chargements à transporter d'un point A à un point B. Donc ils ont plein de camions qu'ils envoient dans différentes directions et il reste toujours des transports qui ne sont pas affectés ou pas pratiques. Donc il faut les replacer chez des sous-traitants. Et c'est mon travail de les revendre en fait à des sous-traitants et de faire en sorte que ça parte en temps et en heure et que ça arrive surtout en temps et en heure.
Bonjour à tous et donc bienvenue au Tour d'ailleurs, un restaurant rue du Chemin Vert à Paris. Et pourquoi vous êtes réunis ce soir?
Tout simplement parce qu'on s'était mutuellement appréciés lors du jury du Livre Inter et qu'on envisage la suite et proposer des idées pour le 40e anniversaire du Livre Inter.
Ça a tellement bien commencé qu'il fallait surtout pas que ça se finisse.
Ça fait un peu fin de colo, on se donne nos adresses, on s'écrit, on se revoit quoi. Hein.
Oui, sauf que souvent après les colos, on se donne nos adresses, mais on s'appelle pas, on se revoit pas. Alors que là, oui, ça a été vraiment une très belle surprise de voir à quel point ça a été assidu en fait depuis. Et c'est une espèce d'émulation permanente par email.
Ce qu'il faut dire que le prix du Livre Inter, c'est il y a plus de 6 mois et que vous êtes toujours resté en contact. Alors que la colo, les gens passent 3 semaines ensemble. Et vous, vous avez juste passé une journée ensemble, mais après, vous avez continué à vous écrire
tout
pendant 6 mois.
Et puis, en plus, on a déjà planifié 2014, 2015 et 2016. On est bien parti aussi pour planifier la date et le lieu.
Il y a des couples qui se sont formés?
Non. Non. Pas encore.
Mais on a une histoire. On a une histoire.
Vous avez une histoire?
Oui, j'ai une petite histoire parce que j'ai rencontré une écrivaine qui a participé dans les années 80. Et je lui dis, vous avez gardé des contacts avec les personnes qui faisaient partie du jury avec vous? Et elle a eu un petit sourire assez malicieux. Et puis elle m'a dit, oui, surtout avec une des personnes qui est devenue mon mari. J'ai trouvé ça délicieux. Ça ne m'étonne qu'à moitié parce que moi, j'ai trouvé des gens très sympas. On a plein de projets.
Qu'est-ce que c'est comme projet?
On a l'intention de se retrouver, notamment pour les 40 ans du Livre Inter. Donc, on a envie de proposer quelque chose. On a envie de.
Qu'est-ce que vous voulez proposer?
En fait, comment on a appelé ça? Le
Livre Inter des Livres Inter. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se retrouver tous et sélectionner parmi les 39 Livres Inter celui qui sera notre Livre Inter des Livres Inter.
Mais vous envisagez de fonder une secte un peu des anciens du Livre Inter?
On y pense. Alors, on n'a pas encore un slogan, on n'a pas encore une tenue, un uniforme, mais on
pourrait
venir.
On
voudrait faire une grande boom des 40 ans du Livre Inter. Ah, oui. C'est un petit peu notre objectif.
Très bien, la boom des jurés.
Voilà. C'est ça.
Longue vie à la communauté, alors.
Oui,
merci.
On vous a dit qu'on avait trouvé un nom. On s'est trouvé un nom. On s'appelle les Zéninters, parce qu'on avait élu Alice Zéniter et que c'est le prix Inter, donc les Zéninters, ça c'était vachement bien.
Ça c'est pour votre année 2013, quoi.
Voilà.
Parce qu'on le rappelle, c'est Alice Zéniter avec Sombre Dimanche qui a eu le prix du Livre Inter 2013.
Voilà. Exactement.
Et alors, vous aviez d'autres projets que de créer le Livre Inter des Livres Inter ou...
D'autres projets?
Eh bien, oui, on continue de faire vivre le cadavre exquis. Et puis, on a également écrit nos impressions à chaud en tant que juré du prix Inter.
Quel souvenir vous gardez de la délibération du Livre Inter?
ce qui m'a frappée, c'était... J'étais d'abord extrêmement admirative devant tous ces écrivains qui avaient réussi à écrire un livre. Parce que bon, effectivement, il y a des livres que j'ai moins aimés, d'autres que j'ai plus aimés. Mais ils ont tous en commun mon admiration totale parce qu'ils ont réussi à faire au moins ça, quoi. Et c'est vrai que le livre Inter, pour moi, ça a été un vrai déclic. Parce que j'ai toujours eu envie d'écrire. Et du coup, j'ai commencé à écrire, voilà, depuis.
Super.
Voilà. Bientôt, c'est le futur livre Inter.
On a eu droit à des extraits, du livre de
l'heure. Alors, quelle est l'histoire que vous écrivez, Laure?
J'écris, je me suis longtemps posé la question de savoir sur quoi j'allais écrire parce que c'est une envie qui me taraudait. Mais je me suis dit, on écrit bien sur ce qu'on connaît bien. Il se trouve que je suis franco-suédoise. Donc mon histoire, elle se balade un peu entre la France et la Suède. C'est l'histoire d'une jeune femme qui repart en Suède au moment du décès de son grand-père. Et ce décès fait remonter beaucoup de questionnements sur le décès de l'épouse de ce grand-père, donc la grand-mère de mon héroïne. Et elle va aller chercher, se renseigner, jusqu'à trouver un secret de famille assez inattendu. Et voilà, donc...
Vous savez déjà comment ça va se terminer?
Moi, je sais, mais je suis la seule.
Vous avez le titre?
Oui, qui peut-être pourrait changer, mais pour le moment, ça s'appellera L'ours de Dalecarlie.
Parce que c'est le nom d'une...
Parce que c'est le nom de la région en Suède où se passe la plus grande partie de l'histoire.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
J'en profite pour rendre hommage à Paul-Louis Mignon, créateur du prix du livre Inter et qui vient de décéder à presque 93 ans.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
La direction de Chapitre confirme cet après-midi, ces librairies vont déposer le bilan lundi. Lundi, c'était la date limite de dépôt des offres de reprise. Alors ce dépôt de bilan concerne 53 librairies. La direction des librairies Chapitre affirme avoir informé les représentants du personnel. Toujours au chapitre social chez Lagardère, active cette fois la branche média de Lagardère. Les négociations sur le plan de sauvegarde de l'emploi ont été rompues aujourd'hui. D'après les syndicats, c'est le fait de la direction. Ils refusent, les syndicats, tout licenciement et la direction, elle n'accepte pas que ce soit un préalable aux négociations. Début octobre, Lagardère Active avait annoncé la mise en vente de 10 titres Dombi, Première et Psychologie Magazine. Le numéro 1 mondial des arts de la table cherche à vendre Pyrex. Arc International annonce aujourd'hui qu'il est dans la dernière phase de négociation pour se séparer de sa filiale spécialisée dans les ustensiles de cuisine. Voilà qui confirme donc l'information donnée par le magazine Usine Nouvelle. La gamme Pyrex est fabriquée par une usine de Châteauroux qui emploie 400 personnes et pour l'instant on ne connaît pas l'acheteur. Attention, le trafic des avions de la Lufthansa risque d'être perturbé ces 3 prochains jours. La compagnie aérienne allemande va annuler une centaine de vols au départ de l'aéroport de Roissy, au départ d'ailleurs et à l'arrivée. Conséquence de la grève de son personnel au sol contre des mesures de réduction de coûts. La grève doit commencer aux alentours de 4h30 demain matin. 18 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour le maire UDI de Wascal dans le Nord. Gérard Vignoble a été condamné cet après-midi par le tribunal correctionnel de Lille. Condamné pour détournement de fonds publics, maire depuis 37 ans de Wascal, Gérard Vignoble comptait se représenter l'an prochain. Il peut encore le faire s'il fait appel de sa condamnation. La justice égyptienne a acquitté aujourd'hui 3 anciens officiers de police. Ils étaient poursuivis pour avoir torturé 5 prisonniers islamistes sous la présidence d'Hosni Moubarak. Ce jugement intervient au lendemain de la condamnation de 21 partisanes du président islamiste déchu Mohamed Morsi. Par ailleurs, toujours en Égypte, la commission, cette fois chargée de rédiger la nouvelle constitution, doit annoncer en fin de journée la fin de ses travaux. Voilà qui cadre avec le calendrier défini par les autorités provisoires, mis en place par l'armée depuis la destitution de Mohamed Morsi cet été. C'était la condition pour pouvoir mettre en place de nouvelles élections législatives et présidentielles en Égypte. En préambule d'ailleurs de cette nouvelle constitution, on pourra paraît-il y lire que l'Égypte est un État moderne, démocratique et placé sous un régime civil. Enfin, la terre a tremblé aujourd'hui en Iran, 5,6 sur l'échelle de Richter. Le séisme s'est produit à une 60aine de kilomètres au nord-ouest de Bushehr, où l'Iran dispose d'une centrale nucléaire. On ignore pour l'instant si la secousse a fait des victimes ou encore des dégâts. Vous écoutez France Inter, pile poil 16h03.
Viva la femme!
Les femmes, toute une histoire.
Viva!
Stéphanie Duncan.
Vatican.
Dans la marche pour l'égalité contre le racisme en 83, il y avait aussi des filles, oui, filles de Français ou filles d'immigrés, qui vécurent souvent cette marche comme une émancipation. Demain, on en parle avec deux marcheuses, Marie-Laure Mahé et Samia Messaoudi. Et avec Bibia Pavard, nous rendrons hommage à Lucien de Wirth, le papa de la loi sur la contraception. À demain.
Les femmes, toute une histoire. Ce vendredi, à partir de 17h. France Inter.
La voix est libre. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
Eh bien, tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous. Hier soir, s'est tenue aux Invalides à Paris la 5e cérémonie d'excellence française, donc remise de prix. Le prix, c'est un livre simplement, mais enfin, c'est le principe qui est important. C'est le symbole sous le patronage de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Et pour la première fois, il y avait un palmarès artistique, c'est-à-dire qu'on a récompensé une cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, c'est bien normal, une grande chaîne d'hôtels, l'Institut de France, pas moins. Château de Chambord, tout ça pour l'excellence de leur prestation, de leur conception aussi. Et le plus impressionnant, ça a été le professeur Alain Carpentier qui a montré la réalisation d'un cœur artificiel qu'il a pu mener à bien avec une grande firme aéronautique, parce que ce grand chirurgien a dit que quand il opérait des gens, puis qu'il y avait un cœur à greffer, ça allait, mais quand on voyait que la personne allait mourir parce qu'il n'y avait pas de cœur disponible, ben ça l'a vraiment marqué. Et alors, il y a bien un cœur artificiel, mais avec un matériel de 100 kilos à côté. Enfin bref, c'est pas pratique du tout. Et là, il semblerait qu'il y ait cette technologie de pointe dont on pourrait profiter bientôt, je pense. On a récompensé Air France pour ses 80 ans. Un grand cognac, il y a bon. Et je m'en régale. Et puis, pour la première fois, j'ai dit un palmarès d'artistes. Donc ce palmarès d'artistes nous a amené à entendre Pierre Bouteiller. Alors Pierre Bouteiller, je le cite parce qu'il a été grand journaliste, animateur à France Inter et grand directeur de France Inter et de France Musique aussi. Il a décerné un prix pour le jazz à Jean-Luc Ponty. On avait, je vais citer Daniel Alombroso qui a récompensé Lou Doyon et il y avait pourtant d'autres candidats très importants aussi, je peux vous dire, mais je ne peux pas le révéler. Ève Ruggieri, toujours pimpante et toujours extrêmement amusante et sérieuse à la fois, enfin elle était très bien, quoi, récompensée Nathalie Dessay, et il y avait aussi de la concurrence pour la catégorie lyrique. Et puis j'ai eu l'honneur moi-même de proposer un prix virtuellement parce qu'il n'était pas là. Alors on en était triste, mais enfin en même temps ça prouve qu'il a une très belle carrière, à Edgar Moreau, jeune violoncelliste fameux qui a obtenu une victoire de la musique l'année dernière, et puis aussi un deuxième prix Tchaïkovski, ce qui quand on n'est pas russe à Moscou équivaut à un premier évidemment. Alors Edgar Moreau n'a pas encore gravé de disque, dès qu'il sera paru son premier disque, parce qu'il a signé déjà dans une belle maison, eh bien on le diffusera ici, mais Nathalie Dessay, qui est une habituée de France Inter, qui nous a promis de venir bientôt, elle en a gravé des dizaines et des dizaines, au moins. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour entendre dans cette belle voix qui va renoncer à l'opéra bientôt, mais elle continuera des récitals et de la comédie, elle va faire du théâtre, elle l'a dit en 2015, enfin bon, elle nous expliquera ça ici au micro. Je vous propose donc de Boyel Dieu et tiré de la fête du village voisin, un boléro, et c'est un conseil valable pour tout le monde, profitez de la vie.